Check-up santé sur BFM Business.
Alors, je dis toujours que je n'aime pas les voitures, mais que j'aime les 911. Les connaisseurs comprendront.
Oui.
Alors, passionné de ce genre de voitures et lecteur assidu de revues sur ces voitures, je lis et savoure depuis des années les conseils et les chroniques du célèbre avocat Éric de Caumont, défenseur des automobilistes. Il a d'ailleurs accru sa notoriété en participant pendant 14 ans, je crois, à l'émission Sans aucun doute avec Julien Courbet. Mmh. Éric de Caumont, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous toujours aussi passionné d'automobile et même de moto, je crois?
D'automobile, de belles automobiles, de moto, toujours totalement passionné. Et cette passion a du mérite à se préserver à travers les années parce que c'est pas l'âge qui pose problème. Mmh. C'est la façon dont l'automobiliste, un tant soit peu amoureux de ce moyen de transport, est écœuré, traqué sur les routes françaises. Et bon, franchement, comme je le dis souvent, puisque vous parliez tout à l'heure de 911, les connaisseurs apprécieront, je trouve que pour acheter une 911 aujourd'hui, il faut avoir déjà la foi. Et personnellement, je ne suis pas sûr de l'avoir encore.
Alors, donc vous êtes l'avocat avec un grand L ou avec un grand A.
Comme vous préférez.
L'avocat spécialiste du droit des infractions routières,
oui.
Du permapoint. Vous êtes le sauveur des conducteurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de spécialistes comme vous en France?
J'ai longtemps été le seul en France.
Mmh.
Et depuis, j'ai eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des petits-neveux. J'ai plein de monde maintenant.
Si c'est pas du tout votre âge, hein.
Qui
arrière-petits-enfants, ouais.
Merci, c'est gentil.
Ouais.
Et qui, effectivement, bon, j'aurais tendance à dire qu'il y a 4 ou 5 grands spécialistes en France, la plupart d'ailleurs sur Paris, et qu'il y a énormément de monde maintenant qui commence à toucher à ce domaine avec plus ou moins de bonheur.
C'est un peu tant mieux pour vous, puisque vous êtes tellement médiatisé que vous êtes saturé, non?
Ah bah je suis bien occupé, mais pour l'instant j'arrive encore à faire face aux misères de tous les automobilistes qui m'appellent au secours.
Alors pourquoi vous vous êtes intéressé à ce secteur?
La fonction crée l'organe.
Ouais.
J'ai toujours été passionné d'automobile et de moto. J'étais, comme je l'ai déjà expliqué à un journaliste il y a une vingtaine d'années, en fait je suis un motard qui est devenu avocat. Je suis un passionné d'automobile qui est devenu avocat. J'aurais peut-être pu, si j'avais été plus doué, être mécanicien ou garagiste.
Ou médecin.
Voilà, mais en l'occurrence j'ai fait du droit et j'ai concilié une passion, les véhicules à moteur, et une fonction, celle d'avocat. Et comme par hasard, bien entendu, je me suis spécialisé dans la défense des usagers de la route. Il faut reconnaître que je m'étais intéressé de très près à la question déjà pendant mes études de droit et que j'avais fait des travaux pratiques dès l'âge de 16 ans puisque mon premier excès de vitesse remonte à 16 ans et 3 semaines après mon permis.
D'accord. Voilà. Ah, après votre permis.
Voilà, qui a été obtenu à 16 ans puisqu'à l'époque, on pouvait avoir un permis gros cube moto à 16 ans. C'était il y a bien longtemps, au siècle dernier.
Et oui, parce que si vous avez des arrière-petits-enfants, c'est...
Vous comprenez bien que je ne suis pas né de la dernière pluie.
Alors, est-ce que vous trouvez que les automobilistes sont plus contrôlés, plus pénalisés qu'il y a 10 ans, par exemple?
Évidemment. Évidemment, j'ai un recul unique en France de près de 30 ans en la matière en tant que praticien. Et je l'avais déjà en tant qu'étudiant en droit où je m'étais déjà bien spécialisé dans la question. Et on constate très nettement une montée de la répression en termes quantitatifs, c'est-à-dire des contrôles, la multiplication de tous les contrôles possibles et imaginables, la création de nouvelles infractions et... une hyper-répression accrue, non seulement au niveau de la police, mais également au niveau judiciaire, ne serait-ce que parce qu'on a créé des strates successives de sanctions. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de permis à points, il n'y avait pas la triple peine. Aujourd'hui, si vous commettez, par exemple, un excès de vitesse de 40 km/h sur une autoroute déserte, en France, parce qu'en Allemagne, ça se fait tous les jours, c'est autorisé, et ils n'ont pas plus d'accidents que nous. Mais nous, si en France, on roule à 170 sur une autoroute déserte, on a le droit à la rétention immédiate du permis sur le bord de la route par un simple agent de police judiciaire qui porte atteinte à votre présomption d'innocence, d'ailleurs au passage, mais c'est la loi. Après ça, le préfet suspend votre permis sans même vous laisser vous défendre ou vous écouter. Après ça, vous passez devant un tribunal qui là va vous juger correctement, contradictoirement. Et à la suite de cette décision de justice, si vous êtes condamné, vous allez en plus perdre des points sur votre permis de conduire.
Donc
vous voyez l'addition.
Pour culpabiliser
bien évidemment, là,
financier ou alors quand même...
C'est plus un problème juridique, là, c'est plus l'avocat qui vous parle, je dirais que c'est le défenseur militant des automobilistes, de la cause automobiliste. Il est très clair à mes yeux que depuis longtemps, on a voulu culpabiliser les automobilistes plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes de formation, d'infrastructure, tout ce qui pourrait être amélioré efficacement sur la durée, si on s'inscrivait dans la formation et la durée, non pas dans la culture du résultat immédiat et de la réaction immédiate. Et puis deuxièmement, il est très très clair depuis très longtemps, et ça je le démontre quand vous voulez, que la sécurité routière n'a plus que de sécurité routière que le nom et que l'obsession, c'est l'argent et avant toute chose l'argent. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres, je pourrais en sortir 50. Plus de 80% des radars, et notamment les nouveaux radars installés, sont tous tournés pour prendre des photos de l'arrière. Pour les feux rouges, c'est 100%. Bon, on ne peut pas identifier le conducteur. Il suffit au propriétaire de dire, c'est pas moi qui conduisais, et il ne peut pas être sanctionné pénalement, y compris si c'est un irresponsable dangereux qui franchit les feux rouges à 200 à l'heure. Ouais. Par contre...
On les a pas mis pour les motos, non?
On l'a fait aussi pour les motos parce qu'il n'y a pas de plaque à l'avant. On pourrait mettre une plaque à l'avant plutôt que de prendre des photos de l'arrière. Mais de toute façon, l'objectif, c'est effectivement de rentrer l'argent parce que là, par contre, on peut faire payer le propriétaire. C'est la technique du propriétaire-payeur. Oui. Donc, on se désintéresse de l'identification de quelqu'un qui est éventuellement dangereux, mais on ne rate jamais la cible financière. D'accord. Bercy est le grand Manitou qui tire les ficelles de la sécurité routière. C'est mathématique.
Pourtant, vous dites que la vitesse n'est pas le facteur le plus important.
C'est évident. Quand vous voyez qu'il y a peut-être 25% des radars qui sont installés sur autoroute, que sur 4000 morts en France, on en attribue à tout casser. C'est pas moi, c'est la gendarmerie et les sociétés d'autoroute. 20 sur toutes les autoroutes de France réunies dues à la vitesse par an en France. Il n'y a pas un mort dû à la vitesse par an par autoroute en France. À 1, à 2, à 6, à 5, etc. Et quand vous vous rappelez que nous sommes un pays de transit, et que pendant l'été, il y a des migrations de millions d'automobilistes qui viennent du nord de la France vers le sud, vous vous dites, et qui passent par les autoroutes, bien entendu.
70 millions de touristes en France.
Voilà. Donc vous vous dites bien sûr que la vitesse ne tue pas sur autoroute. D'ailleurs, les statistiques sont très claires. On meurt plus par endormissement ou par sous-gonflage des pneus sur autoroute que du fait de la vitesse.
Des problèmes, ça c'est le médecin qui parle, des problèmes de vue,
des problèmes des problèmes de médicaments, des problèmes de fatigue, tout un tas d'autres raisons qui peuvent entraîner bien sûr une accidentologie importante sur autoroute. Mmh. Eh bien, moyennant quoi, on place des radars sur autoroute, non seulement les radars fixes, mais des contrôles de vitesse. Moi, j'ai fait récemment un Paris-Bordeaux aller-retour. Il y avait 8 radars qui étaient fixes et j'en ai eu 11 mobiles. Enfin, quand je dis mobile, c'est un terme impropre, disons des contrôles volants. Donc vous voyez à quel point on essaye de pressurer les automobilistes sur autoroute, alors même que l'on sait, et la gendarmerie nationale l'affirme elle-même, qu'on ne se tue pas ou quasiment pas à cause de la vitesse sur autoroute. C'est bien la preuve qu'il y a une erreur de cible, il y a une volonté de culpabilisation et de rentrer le maximum d'argent dans les conditions.
Et on est peut-être un des rares pays où il n'y a pas d'examen d'aptitude à la conduite automobile.
Et c'est tout le problème. Non, figurez-vous que parmi les nombreuses mesures qui reviennent de façon régulière, un petit peu comme l'arlésienne, on a, mais qu'on ne voit jamais arriver à terme. On a parlé à l'époque où on a mis en place notamment les radars automatiques en 2003 d'un contrôle médical des capacités des conducteurs, notamment qui serait en tout cas accru dans sa fréquence à partir d'un certain âge, 60, 65, 70 ans.
75 ans au départ. Bon,
voilà. Et ce contrôle n'a jamais été mis en place. Et pourtant, il y avait unanimité d'un certain nombre de participants, y compris des défenseurs des automobilistes dont je suis, qui disaient c'est pas une mauvaise chose que de vérifier son état de santé parce que c'est des épiphénomènes,
mais... C'est justement pour prévenir.
Chaque année, on voit des drames qui sont dus à des personnes âgées qui prennent des échangeurs à contresens ou des choses comme ça.
Alors, rapidement, est-ce que le professionnel de santé, parce qu'il faut quand même parler de santé, est-ce que lui, c'est un automobiliste, le médecin, est-ce que c'est un automobiliste comme les autres?
Ben, si vous voulez, moi, je lui vois deux caractéristiques au médecin, parce que j'en ai énormément dans ma clientèle. La première, c'est pas très spécifique, mais c'est un professionnel de la route, surtout quand il exerce, évidemment, hors agglomération, même en agglomération.
Vous sentez qu'il y a un acharnement contre les médecins ou pas?
Un acharnement, non, mais on entend bien dans leur discours que, j'allais dire, la complicité qu'il pouvait y avoir avant avec les gendarmes, avec les policiers, parce que c'était quelqu'un qui se déplaçait pour la santé des gens, qui allait parfois sauver des vies, et donc quelque part, on poursuivait un même objectif. J'entends beaucoup de médecins se plaindre du fait que désormais, ils sont considérés comme des délinquants, comme les autres, ils osent rouler trop vite, ah bah c'est pas mon problème si vous avez 50 visites à faire dans la journée, etc., ainsi de suite. Et la deuxième partie très particulière pour les médecins, c'est que je me rends bien compte que les magistrats ont plus de mal à entendre ce discours de la part de gens qui disent, vous savez, moi je suis chirurgien, je suis médecin du SAMU, je passe ma vie à sauver des vies humaines. J'ai donc le plus grand respect parce que je sais notamment ce que c'est qu'une personne polytraumatisée à la suite d'un accident de la route et qu'il faut opérer. Donc, croyez-moi, je suis aux premières loges, j'ai pas besoin d'aller faire un stage en hôpital ou un travail d'intérêt général pour comprendre ce que c'est que le drame de l'insécurité routière. Et si je me suis permis de rouler à 150 sur cette autoroute déserte ce jour-là avec une voiture en parfait état, bah c'est tout simplement parce que ça ne présentait aucun danger. Non, monsieur, c'est pas parce que vous êtes médecin que vous êtes capable de mieux comprendre ou de vous affranchir de la loi. La loi est la même pour tous. Mm-hmm. Et ce discours, il est nouveau. Je l'entendais beaucoup moins il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on disait effectivement, oui, vous êtes un professionnel de la santé et de la vie humaine. Quelque part,
vous méritez
une certaine indulgence, une certaine compréhension, parce que vous savez ce que vous faites. Ouais. Vous savez trop ce que vaut la vie.
D'ailleurs, le caducée a perdu beaucoup de son intérêt. Hein.
Oui, okay. Au niveau, effectivement, de ce que ça pouvait générer comme tolérance.
D'accord. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous conseillez aux médecins? Si vous avez un ou deux conseils à leur donner.
Ce que je conseille aux médecins, c'est ce que je conseille à beaucoup de monde, c'est premièrement de toujours avoir présent à l'esprit du fait qu'on peut se défendre. Hein. Alors, dans le doute, avouez, payer sur le bord de la route, non, jamais. Toujours réfléchir. Par exemple, on vous dit payer, ça va être moins cher. Oui, non, mais en fait, vous avez 3 jours pour réfléchir. Alors réfléchissez, appelez un bon avocat et ne payez que quand vous aurez pris conseil, sachant que une fois que vous avez payé, les points sont perdus, il n'y a plus rien à faire. Et puis un deuxième conseil que je donne, pas spécialement aux médecins, mais ça les concerne beaucoup aussi, je pense, qui est de ne plus jamais circuler dans un véhicule à son nom. Pourquoi? Je l'ai dit pendant 30 ans parce que c'était la meilleure façon de se défendre par rapport au flash. Radar, vitesse ou feu rouge, parce qu'effectivement, si c'est pas vous qui êtes au volant de la voiture qui appartient à un autre nom, etc., etc., vous êtes tranquille pour les pertes de points. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir depuis un an avec la loi LOPSI 2. Écoutez-moi bien, c'est la possibilité de confiscation de la voiture et de sa vente au profit de l'État, facultative dans un nombre très conséquent d'infractions, est désormais obligatoire, par exemple, pour une récidive de grand excès de vitesse. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous pouvez du jour au lendemain vous retrouver privé de votre voiture, spolié de votre voiture qui est vendue au profit de l'État. Vous avez juste la consolation de pouvoir aller la vendre aux enchères, la racheter si ça vous fait plaisir. Donc à partir de ce moment-là, je dis que le fait de circuler dans un véhicule au nom de quelqu'un d'autre, ce qui est parfaitement légal, est une question de survie et qu'il faut impérativement le faire.
Très bien, à première vue. Merci Eric de Caumont. À première vue, vous n'êtes pas encore au chômage.
Non, je pense qu'effectivement, je prendrai ma retraite avant d'être au chômage technique.
Bon, c'est ainsi que se termine cette 59e édition de Check-up Santé sur BFM Business. On se retrouve, j'espère, avec vous autant de plaisir que moi, la semaine prochaine. À bientôt sur BFM Business.